France Info.
Bonsoir Laurent Jacovelli.
Bonsoir Agathe Ambray.
Vous êtes député de Moselle, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Je vous demandais, est-ce que Marine Le Pen se prend pour la vice-première ministre ?
Non, pas du tout. Elle se prend, comme vous dites, pour le leader de l'opposition en France et en tant que telle, comme présidente du premier groupe à l'Assemblée nationale, comme quelqu'un qui compte dans la vie politique française. Elle défend les Françaises et les Français qui ont voté pour le Rassemblement National. C'est 11 millions d'électeurs qui n'ont pas le droit d'être insultés, notamment par un ministre stagiaire qui vient d'arriver, qui apparemment ne connaît pas les codes.
Un ministre stagiaire, vous dites, et on entend votre argument, on va y revenir, mais Marine Le Pen a réagi effectivement au fait que le ministre de l'économie explique qu'il ne discuterait pas avec le RN car il estime que ce parti n'est pas dans l'arc républicain. Et elle a déclaré « Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à ses ministres la philosophie de son gouvernement car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris ». Pas compris quoi, Laurent Jacobelli ? C'est quoi la philosophie ? C'est Marine Le Pen qui dit que la philosophie ?
Non, ce sont les règles de la Ve République et de la démocratie. Dans notre pays, un électeur, même s'il a voté Rassemblement National, ne peut jamais être considéré comme un électeur de seconde zone. Un député n'est jamais un sous-député. Et donc, quand aujourd'hui nous avons un gouvernement fait de briques et de brocs, de partis qui ont été, je crois, repoussés par les Français. D'un côté, la Macronie. On sait bien que les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, les LR, qui est devenu un parti agonisant, eh bien, ils se retrouvent au gouvernement. Je crois qu'ils n'ont aucune capacité à mépriser qui que ce soit, et surtout pas le premier parti de France.
Mais c'est pas le sujet, Laurent Jacobelli.
Le ministre
a dit qu'il discuterait pas du budget avec Marine Le Pen. Il n'a pas méprisé vos électeurs. On a l'impression que derrière cette notion de respect de vos électeurs, vous placez un peu tout ce que vous voulez pour menacer de censurer tout ce que vous voulez.
Non, si je dis demain que j'invite chez moi tous les journalistes politiques, sauf Agathe Lambray, vous pourrez vous sentir à juste titre visé, alors que vous êtes une journaliste comme les autres. Eh bien, le ministre de l'économie, monsieur Armand, a déclaré qu'il inviterait à sa table tous les courants de pensée, tous les groupes politiques, sauf le Rassemblement National. Ça s'appelle de l'exclusion, ça s'appelle du mépris, ça s'appelle aussi le refus de voir la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, majoritairement, les Français ne veulent plus de la politique économique d'Emmanuel Macron qui nous emmène dans le mur, on le voit avec les 3 milliards 200 millions de dettes, et font confiance largement au Rassemblement National. Certains, agrippés à leur vieux monde, n'arrivent pas à le comprendre, alors on va leur faire comprendre.
Sur le budget, au passage, vos lignes rouges, c'est notamment pas de hausse d'impôts.
Bien sûr.
Alors le gouvernement envisage des hausses ciblées sur les plus aisés, sur les plus grosses entreprises. Est-ce que ça, c'est une ligne rouge pour vous ?
On regardera dans le détail s'il y a un impact, notamment sur les classes moyennes, si, comme on nous le dit, il y a le gel des seuils de tranches d'impôts, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas l'inflation, ça reviendra à augmenter les impôts des classes moyennes. Alors là, nous agirons.
Sauf si c'est juste le gel des tranches supérieures pour les plus riches.
Sauf si c'est la dernière tranche, par exemple. Nous regarderons aussi ce qu'ils appellent les hausses d'impôts pour les entreprises. Si on parle des surprofits, c'est-à-dire ces profits qui ont été finalement le fruit de circonstances particulières, une explosion des coûts, etc. Mais pas le fruit de la stratégie ou des investissements ou des recrutements des entreprises. Là, oui, bien sûr, on est d'accord, c'était une de nos propositions. Mais vous savez, le problème des Français, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'impôts. Au contraire, je crois qu'on est assez matraqué. On est leader européen et même leader occidentaux en la matière. C'est qu'il y a trop de dépenses, notamment les 54 milliards par an dépensés dans l'immigration, notamment les 75 milliards qui sont perdus dans la fraude sociale ou fiscale. Allons chercher l'argent là où il est avant de faire une nouvelle fois la poche des Français et des entrepreneurs.
Ça ne réglerait pas tout. Par exemple, supprimer l'aide médicale d'État, ça ne rapporterait pas grand-chose à l'échelle de ce dont on a besoin.
Ça rapporterait déjà 1,2 milliard. Et puis ce serait, je crois,
plus de 30 milliards.
Ce serait déjà un beau symbole. Au moment où on dit aux Français on va dérembourser un certain nombre de soins, on va rendre toujours plus difficile l'accès aux médecins qui vont se regrouper dans les métropoles faute de moyens, mais c'est les soins open bar pour les migrants clandestins. Je pense que c'est plus supportable. La priorité doit être donnée aux Français et ce milliard doit être rendu aux Français.
Laurent Jacobelli, pour en revenir à notre sujet précédent, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui ? Qu'il négocie avec vous la non-censure du Rassemblement National ?
Nous, on veut qu'il prenne en compte les éléments programmatiques que nous apportons. Pas de baisse de pouvoir d'achat pour les Français. Plus de sécurité, moins d'immigration. C'est le mandat que nous ont donné nos électeurs. Celui-ci avec un autre mandat, celui d'être respecté. Vous savez, nous avons conscience que M. Barnier n'est pas notre famille politique, nous sommes des opposants, qu'aucun membre de son gouvernement ne sont de notre famille politique. Nous n'avons pas eu la majorité pour faire le gouvernement nous-mêmes. Nous savons que nous sommes dans l'opposition. Donc nous allons être
mais vous le savez vraiment,
vigilants, constructifs et
influents. Vous pensez aux électeurs d'Emmanuel Macron, vous pensez aux électeurs du Nouveau Front Populaire, vous ne cessez de parler de vos électeurs, mais eux, ils n'ont pas demandé à avoir un gouvernement LR sous la tutelle de Marine Le Pen.
Non, bien sûr, mais les électeurs d'Emmanuel Macron ont un gouvernement très largement macroniste. Les rares électeurs des LR ont une surreprésentation de leur famille politique au gouvernement. Les électeurs de gauche ont refusé l'obstacle. Hein, le président de la République leur avait proposé d'y aller. Je tiens à dire d'ailleurs que nous sommes assez fiers d'avoir fait barrage à notre tour au pire de la gauche, celle qui aurait amené la France à la faillite, au déshonneur et à la violence en quelques semaines. Nous sommes heureux que la France insoumise et les Verts ne soient pas au gouvernement. Je crois qu'on a évité le pire. Mais simplement, on ne peut pas oublier la voix du premier parti de France. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, personne n'a la majorité. Donc le premier parti de France doit être influent et compter sur nous. Nous allons porter la voix de nos électeurs partout, tout le temps, par tous les moyens que nous offre la Constitution.
Vous laissez planer le doute sur une motion de censure. On peut se demander si c'est pas un peu du chantage aussi, ce que vous faites. On a quand même des indications sur la ligne de ce gouvernement. Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur, par exemple, qui veut revoir l'aide médicale d'État, on en parlait, qui veut revoir la politique pénale, qui martèle que le pays n'est pas un hall de gare. Ça vous parle, non? Il est RN compatible, Bruno Retailleau?
Je crois qu'il a très bien appris, en tout cas, notre programme. Il le récite à la perfection et pratiquement à la virgule près. Donc, je ne vais pas vous dire que cela ne nous satisfait pas. Ce qui nous inquiète, c'est l'entourage. C'est M. Migaud à la justice, celui qui nous dit que le laxisme judiciaire n'existe pas en France. L'actualité terrible. Terrible, de cette jeune fille tuée par un étranger de 22 Philippine. Ans, un Marocain, sous OQTF, non exécuté, qui avait déjà violé, qui avait été condamné à 7 ans, qui avait été relâché au bout de moins de 3 ans. Il y a toutes les failles de la justice dans cette histoire-là, qui a coûté la vie d'une fille de France.
Eh bien, une jeune étudiante qui a été tuée dans le bois de Boulogne vendredi, un homme a été arrêté
un Marocain,
hier soir.
Oui,
effectivement,
sous OQTF.
Qui était sous OQTF.
Qui n'avait rien à faire
qui
en France.
Qui n'était pas exécuté, cette OQTF, en raison de l'absence de s'est passé consulaire délivré par le Maroc,
c'est un peu plus
notamment.
Compliqué.
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous ?
Écoutez, il y a tout dans cette histoire et c'est malheureusement terrible. D'abord, il y a eu une remise de peine, parce qu'il avait moins de 18 ans. Je pense qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité. Il faut mettre fin aux remises de peine. Il faut des peines planchées, notamment pour les violeurs et les assassins. Et puis, il faut surtout la double peine. Nous l'assumons. Quand un étranger a commis un crime ou un délit grave, il doit repartir chez lui. Et c'est l'autre inquiétude que nous avons. C'est le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, qui est un universaliste, un européiste convaincu, et dont on n'imagine pas qu'il va aller négocier avec le Maroc, avec l'Algérie, avec un certain nombre de pays, la facilitation, d'avoir des laissez-passer consulaires.
La France a déjà suspendu les visas.
Mais pas assez,
les pays surtout, du Maghreb, justement pour faire pression.
Je vais vous dire, il faut des mesures très simples. Par exemple, arrêter et interdire les transferts d'argent vers les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Et puis quand il y a l'aide au développement, mettre une clause dans les contrats d'aide au développement, comme quoi le pays qui reçoit l'aide s'engage à reprendre ses ressortissants délinquants et criminels.
Bruno Retailleau se dit prêt dans un communiqué à changer les règles aujourd'hui. Il appelle à travailler justement avec le garde des Sceaux. Donc ça va dans le bon sens. Vous soutiendrez le ministre s'il veut changer les règles de droit?
Mais nous sommes des pragmatiques. Si demain il y a un projet de loi qui vient du gouvernement et qui reprend nos mesures, je viens d'en citer un certain nombre, j'ajouterai la fin du droit du sol, j'ajouterai aussi la fin des aides sociales pour ceux qui viennent d'arriver dans notre pays, le retour automatique au pays d'origine pour les étrangers qui n'ont plus de travail au bout de quelques temps. Tout cela, évidemment, si ça nous est proposé, nous le voterons. Sinon, nous serons patients. Nous le proposerons nous-mêmes aux Français après la prochaine dissolution qui, nous l'espérons,
arrivera très vite. Vous voulez une nouvelle loi immigration?
Mais évidemment, il le faut. Il faut même un référendum sur l'immigration. Il faut que les Français se prononcent là-dessus.
Dans le sujet du soir, cette terrible mort, est-ce que le sujet n'est pas un tout petit peu plus complexe que ça? Parce qu'en réalité, il aurait dû quitter le territoire. Oui. Il était prévu qu'il le fasse et c'est pour des raisons administratives qu'il s'est retrouvé en liberté d'une certaine manière. Donc ce n'est pas tellement que la loi n'était pas là, c'est que la loi n'a pas été appliquée correctement.
Si je peux me permettre, il a violé. Il a été condamné à 7 ans.
Il était prévu, la loi l'obligeait à quitter le territoire.
Oui, mais il n'est pas parti. Donc, excusez-moi.
Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la loi existe. C'est juste
la loi.
Il faut une nouvelle loi. La loi, elle est là.
Il faut des nouvelles lois pour généraliser effectivement le renvoi des étrangers qui ne respectent pas nos règles, mais il faut aussi la fin du laxisme judiciaire. C'est ce que je disais en début d'interview. Il y a quand même un juge qui a libéré cet individu et dans les attendus, il met qu'il a conscience que l'individu présente des risques de récidive. Eh bien, moi, ce juge...
Parce qu'il y a des règles, on ne peut pas retenir quelqu'un pour la quatrième fois dans un centre de rétention.
Jusqu'à 90 jours, dans un centre de rétention, il est parti.
Mais il faut motiver les décisions, et plus on prolonge, plus il faut motiver.
Moi, je n'expliquerai pas, je ne peux pas en tout cas, expliquer à la famille de la victime que tout s'est passé normalement. Voilà. Je pense que, effectivement, un pays qui laisse des meurtriers potentiels, des violeurs, qui n'ont pas le droit d'être en France libres de circuler, eh bien, ce pays a un problème. Il a un problème de justice, il a un problème de maintien de l'ordre, il a même un problème de démocratie, parce que la démocratie, c'est aussi vivre en sécurité dans le respect des règles. Or, aujourd'hui, certains ne respectent plus les règles, et je vous le dis, c'est une forme de bonne conscience qui excuse tout aux étrangers avec une espèce de forme de repentance permanente qui, aujourd'hui, met à mal la sécurité de nos compatriotes, et il est temps de contrôler aussi nos frontières, parce qu'aujourd'hui, on importe des criminels, et ce n'est plus possible.
Laurent Jacobelli, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour évoquer notamment le conflit entre Israël et le Liban. Depuis le début des frappes, le bilan est d'environ 600 morts, des milliers de blessés, des déplacés. Qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole du chef de l'État ?
Il faut qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité et il faut faire respecter, excusez-moi d'être un peu technique, mais la résolution 1701 des Nations Unies, cette résolution qui date de 2006 et qui veut que le Hezbollah ne soit plus armé. Voilà. Et que seule l'armée officielle libanaise puisse posséder des armes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tant que le Hezbollah, qui est une association islamiste, terroriste, avec derrière l'Iran, tout le monde le sait, pourra être armé, alors malheureusement, la région sera dangereuse et sera une poudrière. Je rappelle qu'il y a aussi 80 000 Israéliens qui ont été déplacés de Galilée vers Tel Aviv, qui malheureusement, je crois, a été attaqué ce soir, parce que la zone était dangereuse. Donc il faut éviter l'escalade.
Il faut appeler à la retenue.
Il faut appeler à la retenue, mais on peut comprendre aussi qu'Israël, qui est attaqué de toutes parts par des mouvements terroristes, se défende. Donc c'est là qu'une réunion du Conseil de sécurité prendrait tout son sens.
Merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir répondu aux questions de France Info. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée.